Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire du Toulouse Football Club, TFC. Partie 3, 1986, le TFC aux portes du paradis. Le Toulouse Football Club découvre la Coupe d'Europe en 1986, où il illumine Naples de Diego Maradona. C'est une longue montée en puissance depuis 1982. Sous l'impulsion d'un nouveau président, l'ambitieux Daniel Vicentin, le TFC va intégrer la Division 1 en 1982. Le nouveau président recrute l'ancien international néerlandais Robert Rezenbring, sorti de sa retraite, mais ce sera un échec et il quittera le Sud-Ouest après 12 matchs. Poussé par son adjoint Guy Roussel, Pierre Cahuzac s'intéresse aux jeunes. Il souhaite engager Bernard Casoni, mais la SEK ne refuse. Il embauche alors l'autre défenseur central cannois, Claude Deplanche, ainsi qu'un joueur du Toulouse Fontaine voisin, à l'époque inconnu, Jean-Philippe Durand. Il lance des jeunes, Jean-Luc Sassus, Patrice Segura, Claude Louvis, l'explosif gardien venu de Thionville, Stéphane D'Angelo, et réussit sa mission grâce, entre autres, aux passes du meneur Gérard Albert, au solide et expérimenté défenseur hongrois du FC Bruges, alors âgé de 33 ans, Laszlo Balint, et au capitaine buteur Robert Pintena, associé en attaque au Marocain Abdelkrim Krimo, prêté par le Lost Lille. Daniel Vicentin vise haut. Le nouveau sponsor met plus d'argent et le club emprunte beaucoup, s'endettant dangereusement. Le recrutement est mené par le président, n'écoutant que peu son entraîneur. Deux internationaux du dernier mondial espagnol, Christian Lopez, le libéro de l'association sportive stéphanoise, et Gérard Soler, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, signent au TFC. Ils sont accompagnés du défenseur latéral Jean-Jacques Marx, du RC Strasbourg, du virevoltant attaquant limois Jean-Marc Ferrac, du meneur de jeu de la Hongrie, Karolík Szápó, et du milieu de terrain récupérateur formé au Football Club de Nantes, Georges Van Schaelen. Ces trois derniers furent voulus par Cahuzac, qui voulait surtout un stopper. Le départ est excellent, premier lors des deux et trois premières journées, mais l'équipe chute ensuite jusqu'à la 18e place au soir de la 23e journée. Néanmoins, le TFC remonte et se maintient honorablement en se classant 11e. Après quatre saisons pleines, Pierre Cahuzac n'est pas reconduit par l'omniprésent président Vicentin, mais reste à la disposition du club. Le Suisse Daniel Jean Dupeux arrive, libre depuis la fin de son contrat au FC Zurich. L'ambiance s'améliore, les joueurs eux-mêmes élisent leur capitaine, qui sera soit Christian Lopez, soit Gérard Soler, au gré des absences et blessures. Le président libère une dizaine de joueurs, parmi lesquels l'Hongrois Szápó et les artisans de la montée un an plus tôt, Veller, Le Blaillot, Balint, Vinuesa, Maier, Pintena, qui quittent le club en tant que meilleur buteur en première division de son histoire, avec 83 buts marqués, et impose le recrutement du gardien international Philippe Bergerot, ex-Lille, pour concurrencer Stéphane D'Angelo, lequel, vexé de ce manque de confiance, sera plus ou moins écarté du groupe jusqu'à son départ en 1985. Arrive aussi, cet été 1983, le latéral gauche lyonnais Jean-François Domergue, ancien de Bordeaux, repositionné défenseur central, le meneur de jeu suisse du Servette de Genève, Lucien Favre, l'ailier du FC Tours, Guy Lacombe, et le jeune avant-centre prometteur de Saint-Étienne, Laurent Rousset. Avec ses internationaux en devenir, le TFC réalise une bonne saison, conclue à la 5e place, prometteuse d'un avenir européen à court terme. Quant à Pierre Cahuzac, il annonce sa retraite, mais en sera sorti en septembre 1984 par l'Olympique de Marseille pour remplacer Roland Cransart. Au cours des deux saisons suivantes, le Toulouse Football Club recrute plusieurs joueurs confirmés au plus haut niveau, dont le champion du monde argentin 1978 Alberto Tarantini, l'international de l'AS Monaco Didier Christophe, l'avancante du Stade Rennais Yannick Stopira, puis le meilleur joueur d'Argentine 1984-1985 Betico Marsico, ou encore le grand espoir de Montpellier, Gérald Passy. pour asseoir sa place en Division 1, puis viser une place en Coupe d'Europe. Toujours sous l'impulsion de Daniel Jean Dupeux, puis celle de Jacques Santini, les résultats suivent et progressent. 11e en 1984-1985, 4e en 1985-1986, place qualificative pour la Coupe UEFA. L'historien Denis Beau nous fait revivre ce match d'anthologie TFC-Naples dans son ouvrage 1957, le TFC au sommet du football français. En 1986, le TFC termine à la 4e place du championnat. Ce classement lui permet de participer à une Coupe européenne. Les Toulousains attendaient cela depuis 20 ans. Pour les dirigeants, cet objectif représentait bien sûr un impératif économique du fait de tous les investissements consentis. Mais c'est également une façon d'afficher leur crédibilité auprès du football international. Le TFC ne devrait pas avoir de peine à réaliser la plus grosse recette de son histoire, enjolivée d'importants revenus publicitaires et droits aux images, prévoit France Football. Tout cet argent n'aura pas été dépensé en vain. D'emblée, la compétition prend un tour prestigieux puisque le sort a décidé d'opposer le TFC à la Società Sportiva Calcio Napoli, Naples, autrement dit Diego Maradona. Tout le monde a en tête les exploits de ce gamin issu des bidonvilles de Buenos Aires qui a donné la Coupe du Monde à l'équipe d'Argentine. Sa prestation mémorable du 22 juin 1986 contre l'Angleterre au stade Aztec de Mexico est encore dans tous les esprits. El Pibe de Oro est l'auteur aussi bien du but du siècle que de celui de la main de Dieu. Maradona est excessif, adulé sur les terrains, controversé dans les médias, vénéré comme un dieu à Naples. Il a su redonner sa fierté à la grande ville délaissée du sud de l'Italie. En l'approchant, le TFC pense être touché par la grâce de ce héros. Le match aller du 17 septembre 1986 a lieu à Naples. Alors que Paris est visé ce jour-là par une série d'attentats d'une extrême violence, les 400 Toulousains qui ont fait le déplacement découvrent l'ambiance du stade de San Paolo, bondé de ses 85 000 tifosi. 1-0 pour Naples. Le score serré laisse tous leurs espoirs de victoire aux Toulousains lors du match retour. La ville connaît alors une attente, une émotion, voire une ferveur jamais égalée autour du TFC. La presse locale déclenche le compte à rebours de l'événement. Le football semble avoir éclipsé la vie politique, pourtant intense, après une élection législative partielle très serrée qui voit Lionel Jospin et Dominique Baudis devenir députés de la Haute-Garonne. Lorsque l'avion des Napolitains se pose à Blagnac le soir du 29 septembre, une émeute se forme quand Maradona apparaît. Le Figaro annonce même l'arrivée de l'empereur du Capitole. La billetterie du TFC est prise d'assaut, les 35 000 places s'envolent et la rencontre se joue à guichet fermé. Le vent d'OTAN souffle en ce 1er octobre 1986 et la folie gagne la ville. Toulouse devient le centre de l'attention médiatique. Près de 160 journalistes sont dépêchés sur place. Le sélectionneur de l'équipe de France, Henri Michel, est également présent. L'effervescence est perceptible jusque dans les cafés qui se préparent à diffuser le match retransmis par Antenne 2. Le bus des joueurs du TFC est ralenti par la foule qui l'acclame, met près de 2 heures pour faire le trajet qui sépare l'hôtel situé route de Saint-Simon du stadium. Il faut imposer un rapport de force avant d'entrer sur le terrain. Dans les couloirs, les esprits s'échauffent. Beto Marsico et Alberto Tarantini, les Argentins du TFC, tentent d'impressionner Diego Maradona en le provoquant. Ce match sent la poudre, lance le commentateur Bernard Père à son acolyte Roger Piantoni lorsque les deux équipes font leur apparition sur le terrain. Dans les tribunes, le fond de l'air est rouge, car les supporters déploient des feux de Bengale, pourtant interdits. Dès que Maradona foule la pelouse, les acclamations du public couvrent les noms des autres joueurs énoncés par le speaker. Les capitaines de chaque équipe se retrouvent pour le tirage au sort rituel dans le rond central. Signe du destin, Philippe Bergerot gagne contre Diego Maradona. Il choisit de laisser le coup d'envoi aux Napolitains, mais se réserve la moitié de terrain qu'il préfère. Le TFC prend le match à son compte. À 20h, le coup d'envoi est donné par l'arbitre suédois Erik Fredriksson. Maradona part en dribblant, mais est stoppé dans sa course par un tacle rageur. Cette action symbolise tout le match. Les Toulousains cherchent à neutraliser le meneur de jeu adverse par tous les moyens et le prodige est empêché de jouer. Le TFC domine son sujet et à la 15e minute, le buteur toulousain Yannick Stopira ouvre le score. L'enthousiasme dans le stade est immense et la ville rose s'emballe au rythme des holà qui parcourent les spectateurs. Les deux équipes sont désormais à égalité. À la fin du temps réglementaire, elles ne sont toujours pas départagées. On a alors recours à la science des tirs au but, moment particulier qui ne repose plus sur les qualités de jeu collectif, mais fait appel à la précision technique des joueurs, leur capacité à surmonter la fatigue et la pression psychologique. De grandes vedettes ont déjà failli, à l'instar des Brésiliens Zico et Socrates qui ont manqué leur tir contre la France en quart de finale à la dernière Coupe du Monde. Yannick Stopira tire le premier pénalty, il le rate, et le TFC laisse l'avantage à Naples. Mais bientôt, le gardien Philippe Bergerot permet l'égalisation en arrêtant le quatrième pénalty italien, celui de Salvatore Bagni. Les équipes sont donc à égalité avant le dernier tir au but, celui de Diego Maradona. Le numéro 10 s'avance sous une bronca du public et l'impensable se produit. Son tir atterrit sur le poteau gauche, puis le ballon rebondit sur la cuisse du gardien. Le pénalty est repoussé. Toulouse a gagné sur un coup de dé. Le stadium tremble comme jamais. Les joueurs du TFC sont en larmes. Ils tombent dans les bras de l'entraîneur Jacques Santini et des dirigeants qui font un tour d'honneur, sous les ovations du public, dans un moment de communion. Dans le cœur des aficionados toulousains, le TFC est quasiment devenu à son tour champion du monde en battant Maradona. Ce dernier fait d'ailleurs une déclaration fracassante à la presse dans laquelle il dit porter la poisse à son équipe et envisage de quitter Naples. Cette défaite est l'une des premières depuis la Coupe du Monde et elle révèle sa fatigue morale après une année éreintante. Il n'évoque pas à ce moment-là ce qui le taraude depuis plusieurs semaines, une troublante affaire de paternité révélée par une Napolitaine. Le mercredi 1er octobre 1986, quant à lui, est un véritable lieu de mémoire pour une génération de Toulousains, du fait de l'émotion populaire engendrée et de la trace laissée par cet événement. En ville, c'est l'euphorie. La fête se prolonge jusque tard dans la nuit. Pour longtemps, le TFC a acquis ce soir-là une nouvelle dimension. Ce résultat conforte enfin les sommes investies. Pourtant, le club n'a gagné qu'un premier tour de Coupe d'Europe. Comme l'affirme la Dépêche du Midi, ce match hors du commun a parfois dépassé les limites de la raison. Toulouse est-elle en train de vivre une nouvelle épopée comparable à celle des Verts de Saint-Étienne en 1976 ? Les Toulousains ont cru que la victoire contre Naples était un gage de réussite, mais rien n'est écrit. Lors du tour de qualification suivant, le TFC affronte au Stadium le club du Spartak de Moscou. Le meneur de jeu toulousain, Gérald Passy, est en grande forme. Il réussit l'exploit de marquer 3 buts, un coup du chapeau. Gonflés à bloc, les hommes de Jacques Santini vont pourtant perdre tous leurs moyens au stade Lénine de Moscou. Au match retour, le 5 novembre 1986, ils s'inclinent 5-1 lors d'une véritable bérésina. Fin prématurée de la campagne européenne qui s'annonçait triomphale. Des 11 joueurs de 1986, un est décédé. Il s'agit de l'arrière Patrice Lestage, né à Dax, formé donc à Sochaux, et il décède en 2010 de la maladie de Chagas à 49 ans. Gardien de but, c'était Philippe Bergerot, qui est connu pour être natif de Saint-Jean-de-Luz et a encadré et sélectionné l'équipe de France féminine. Autre défenseur, Benoît Thilly, qui a ensuite entraîné Blagnac, Jean-Luc Ruti, qui a été formé à Sochaux et qui est revenu comme directeur du centre de formation de Sochaux, Alberto Tarantini, le latéral argentin, qui deviendra aussi latéral de Bastia en 83-84, et puis rejoindra son club de River Plate en Argentine. Dans les milieux de terrain, nous avions Pascal Despérou, qui lui deviendra conseiller technique départemental de football à Toulouse, Jean-Philippe Durand, que l'on retrouvera à la cellule de recrutement de l'Eintracht de Francfort, un club allemand, enfin Gérald Passy, qui deviendra recruteur pour l'AS Monaco. Les attaquants, Éric Bellus, qui lui a joué à Saint-Étienne, était champion de France en 1981, puis finira par entraîner Roanne. Alberto Marsico, lui, rejoindra l'Argentine en 1992 dans le club de Boca Junior. Yannick Stopira, lui, aura en charge plus tard les jeunes du Girondin de Bordeaux. Le manager Jacques Santini, qui avait joué donc à Saint-Étienne, et qui est resté entraîneur de Toulouse de 1985 à 1989, deviendra entraîneur de l'équipe de France de 2002 à 2004.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.